Rockoscopie, la culture rock sur JDIC FM.
Bonsoir et bienvenue dans Rockoscopie. Je reçois l'auteur d'un livre sur King Crimson, si je ne me trompe pas, c'est le premier en France, Aymeric Leroy. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors en fait, on avait déjà parlé deux fois de musique progressive avec Aymeric Leroy. Une première fois, c'était il y a un certain temps. À propos de King Crimson, justement, on parlait de l'album Red. Et puis après, c'était, je crois, un de tes premiers livres, voire le premier.
Le deuxième.
Le deuxième pour cet éditeur dont tu es maintenant, tu fais partie de l'écurie. Le mot et le reste, c'était un livre sur le rock progressif en général. Et puis, il y a eu un livre sur Pink Floyd aussi.
Qui était le premier, oui, en 2009.
Voilà, alors ça tombe bien que tu aies fait ça, parce que là, on va parler de King Crimson dans deux secondes, bien sûr, mais il y a eu un petit souci avec notre jeu il y a deux semaines par rapport au concert du groupe Encore Floyd qui joue jusqu'au 22 juillet. Au 20e théâtre à Paris, les personnes qui ont appelé, alors soit se sont trompées, soit nous-mêmes, nous avons des problèmes auditifs et nous avons mal noté les numéros. Donc évidemment, j'ai encore les noms de ces personnes. Et si elles veulent bien rappeler, si elles sont à l'écoute, elles auront les places qu'elles avaient gagnées. Et donc, il faut appeler au 43 37 27 28 avec le 01. 01 43 37 27 28. On est vraiment désolé d'avoir mal noté les coordonnées de ces gagnants de la semaine dernière. Donc voilà, il nous reste encore ces places, quelques-unes, et peut-être même qu'on en fera gagner une de plus à la fin si nous en reste. Donc ce sont les reprises de Pink Floyd au 20e théâtre. Alors ce livre de King Crimson, Aymeric, je crois que c'est le premier qui paraît en France.
Oui, en langue française, oui. Il y en a un en langue anglaise qui a été écrit par Sid Smith, qui est un peu le webmaster officiel de King Crimson. Et je ne sais pas s'il y en a dans d'autres langues, mais en tout cas, c'est le premier en France.
Donc, production très très pauvre. Alors évidemment, en France, on n'écrit pas énormément sur le rock progressif, même si ça commence à venir depuis un certain temps. Mais tu as peut-être ton explication. C'est un groupe quand même relativement essentiel de l'histoire du rock, y compris pour ceux qui ne sont pas fans de la musique progressive.
C'est un peu la réflexion que je me suis faite pour faire ce livre, enfin, et qu'on s'est faite avec mon éditeur Yves Jolivet, puisque c'est lui qui a eu l'idée au départ. Moi, j'avais évidemment traité déjà de King Crimson dans le rock progressif, mais c'est vrai qu'il y avait matière à creuser beaucoup plus. Alors pourquoi ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant, la question est ouverte. Il y a quelques livres qui ont été faits sur Genesis par exemple avec Frédéric Delage, sur quelques autres groupes, il y a un livre sur Yes aussi. King Crimson, ça s'était pas fait. C'est vrai que c'est un peu étonnant parce que c'est un groupe qui ne pâtit pas de la même image négative du rock progressif. Qui touche un public potentiel beaucoup plus large, puisque même pour les amateurs de rock, c'est considéré comme un groupe assez essentiel. Donc j'espère que l'opportunité va éclater de la nécessité d'un tel livre.
Alors, le fait qu'il n'y ait pas eu de tentative précédente, ça pose peut-être un problème que je me suis posé avant de lire ton livre, mais en le lisant aussi, parce que tu parles beaucoup des tournées et de la question des concerts, notamment dans l'esprit de ce personnage vraiment très très complexe qui est Robert Fripp, le guitariste et principal leader, en tout cas surtout depuis dès les premières années, enfin peut-être pas au tout début, mais tu vas nous dire tout ça. Et donc, il n'y a pas un problème entre la France et ce groupe, malgré les très bonnes critiques qu'on continue à faire, notamment sur le premier album de King Crimson.
Un problème avec la France par rapport au fait que le groupe est assez peu tourné.
Voilà, voilà, notamment.
Disons qu'il y a eu plusieurs facteurs. Dans les premières années, c'est vrai que le premier groupe de 69 s'est dissous trop tôt pour tourner en France. Après, il y a eu un break de 2 ans. Et quand le groupe a recommencé à tourner, ils étaient complètement focalisés sur les États-Unis. Donc ça fait que le groupe n'a fait que une poignée de concerts en France en 73-74, à l'Olympia notamment. Dans les années 80, pareil, focalisation beaucoup sur les États-Unis, sur le Japon même. Pour les années plus récentes, Robert Fripp a éprouvé une grande réticence à tourner en Europe à cause de toutes les histoires de frontières, de contrôle, entre les parties qui sont dans l'Europe, dans la communauté. Je sais qu'il a sur son blog, il s'est beaucoup plaint des difficultés logistiques et pratiques de la tournée de 2003 notamment. Et il avait déclaré suite à cette tournée, bon, qui n'a pas eu vraiment de suite depuis, qu'il ne tournerait plus jamais en Europe avec King Crimson. Donc voilà, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui se sont mêlés pour faire en sorte que King Crimson tourne assez peu en France.
Alors le livre s'articule autour des albums, ça c'est vraiment la marque de fabrique de l'éditeur. Est-ce que tu étais d'accord avec ça tout de suite ou ça a été l'objet d'une discussion?
Bah, en fait, c'était mon idée à moi au départ en faisant le Pink Floyd. Alors je revendique pas que ce soit une idée très originale, mais en tout cas c'est la formule que j'avais reprise de vraiment coller strictement à la discographie du groupe. Donc j'avais fait ça pour Pink Floyd et j'ai simplement repris le principe sur King Crimson. Je pense pas qu'il y ait tant de livres que ça en fait qui soient sur ce modèle chez Le Mot et le Reste. Le modèle prédominant c'est plutôt des sélections de 100, 150 albums sur des thématiques précises. Mais finalement, voilà, il y a les deux miens qui font ça. Je pense que c'est une formule qui est tellement basique et tellement évidente que j'espère qu'elle sera renouvelée par moi, par d'autres.
Alors, tu ne te contentes pas de parler des albums studio et même des lives officiels, puisque tu places dans ta chronologie également les multiples parutions post-séparation et notamment les récentes publications. On parlera du site hein, qui met en ligne en fait, des concerts à télécharger, c'est monumental, il y a des tonnes de musique. Et donc, tu fais des petits apartés entre chaque album studio avec des lives tous sont parus après, en fait. Hein.
Ça dépend. Il y a quelques cas contemporains. Bon, enfin, Earthbound, je ne sais pas si on considère que c'est paru juste après la séparation. USA aussi, donc on peut dire que c'est des lives à peu près contemporains. C'est vrai que la plupart sont parus depuis. Alors, dans un premier temps, en CD, plus récemment, en téléchargement. Et bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui est devenu tellement pléthorique que ça aurait été difficile de s'en tenir à quelque chose focalisé sur les albums studio. Surtout que King Crimson est quand même un groupe qui, en tout cas dans certaines périodes, a donné son maximum sur scène. Je pense notamment à l'époque 73-74.
Alors il faut expliquer, là, pour ceux qui ne connaissent pas ce groupe, ou ceux par exemple qui ne connaîtraient que la fameuse pochette du premier album, où on voit ce visage avec cette gorge absolument déployée au maximum, qu'il y a quand même une grande particularité qui s'applique à pas mal de groupes de ces époques-là, c'est qu'on faisait beaucoup d'improvisation sur scène et que King Crimson sur scène ne jouait pas les morceaux tels quels.
Ça c'est vrai surtout à partir de justement 72-73. Le premier groupe quand même restait relativement fidèle au morceau. C'était un groupe assez différent des suivants. L'improvisation était quand même assez contenue. Et les versions des morceaux, bon, solo mis à part, sans être jusqu'à l'extrême des groupes de rock progressif comme Yes ou Genesis, qui vraiment s'en tenaient à des arrangements très, très fixes, c'est le côté improvisé est quand même apparu un peu plus tard. Et il a redisparu à nouveau pendant les années 80, où là il faisait plus du tout d'improvisation sur scène, c'est réapparu dans les années 90. Donc il y a quelque chose d'assez variable selon les line-up, selon les époques de King Crimson pour l'improvisation.
Alors ce qui est curieux d'ailleurs, enfin c'est un petit aparté, mais c'est pas forcément les groupes les plus prog qui faisaient ça, puisque dans les mêmes années, Deep Purple, Led Zeppelin improvisaient pas mal sur certains morceaux où ça pouvait doubler, tripler la durée.
Oui, hein. Et d'ailleurs, on fait souvent le reproche au rock progressif de bavardage, de solo interminable, mais quand on voit Led Zeppelin par exemple, c'est vrai que là, pour le coup, je pense que ça bat tous les records. Alors, on peut aimer, moi j'aime certains trucs, mais quand on voit le film Song Remains the Same, il y a des versions de Moby Dick ou
ces
morceaux-là qui sont quand même assez...
Moby Dick, c'est le solo de batterie, hein, pour ceux qui ne le connaîtraient pas.
À main nue, en partie.
Alors, on va être obligé de passer par une étape essentielle, c'est que King Crimson a été, en fait, plusieurs groupes en fonction des périodes, avec des séparations au milieu. C'est quelque chose d'assez unique, et le seul qui est resté à chaque fois, c'est Robert Fripp. Alors, est-ce que, rapidement, tu peux nous faire alors si je me trompe pas, plus on parlait de 4 périodes.
Au moins.
Toi, tu dirais plus.
Au moins. La première période, c'est King Crimson en tant que vrai groupe au sens classique, c'est-à-dire 4 musiciens qui forment un groupe, plus un parolier, un cinquième membre. Et donc ça dure pendant l'année 69 et le premier album. Suite à ça, première tournée américaine, le groupe se sépare, 2 des musiciens partent et bientôt un troisième, donc il reste plus que Robert Fripp, le guitariste, et Peter Sinfield, le parolier. Donc pendant 2 ans, il y aura ce binôme en fait qui va agréger autour de lui un noyau de musiciens assez fluctuant et pas mal d'invités aussi. Et en 72, Robert Fripp prend vraiment le contrôle du groupe et là recrute lui-même les musiciens seuls, s'étant séparé de Peter Sinfield. Période suivante, c'est les années 80. Là, il y a Adrian Belew, le guitariste-chanteur, qui apparaît. Et c'est autour du duo Fripp-Belew que les 2 décennies suivantes vont trouver une forme de stabilité aussi, même si les autres musiciens vont changer un peu. Mais il y aura ce binôme qui composera la quasi-totalité du répertoire.
Alors, il y a une chose très particulière avec ce groupe, c'est qu'il est unanimement considéré comme un groupe fondateur du rock progressif avec des gens comme Yes, Genesis ou Emerson, Lake and Palmer. Mais Robert Fripp, dont on va beaucoup parler de ce leader, a rarement revendiqué l'étiquette, voire même l'a contestée. Est-ce que c'est de la coquetterie ou est-ce que sa musique va plus loin d'après toi ?
Alors c'est un peu compliqué comme histoire parce qu'en fait tous les groupes que tu viens de citer sont considérés, je pense à juste titre, comme par Robert Fripp comme ayant été influencé par King Crimson. Alors ça peut se jouer sur un an ou deux, mais simplement Crimson a été le premier groupe vraiment à être reconnu et influent avec un répertoire original à l'époque où Yes faisait encore des reprises en grande partie. Genesis était encore un groupe vraiment très très en devenir. Donc il a été premier à ce niveau-là. Dans un deuxième temps, la musique de King Crimson a quand même pas mal évolué en fait en s'éloignant des standards esthétiques du rock progressif, notamment ce qu'on a dit sur l'improvisation qui était très peu pratiquée dans le rock progressif. Donc la tendance qui est quand même le trait principal du rock progressif à composer des morceaux extrêmement arrangés a assez vite disparu de chez King Crimson après Lizard, on peut dire. Et rester confiné à certains morceaux comme Fracture qui sont des compositions très 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 denses, mais pour le reste il y a soit des chansons finalement assez simples dans leur facture, soit des improvisations, et finalement ces instrumentaux assez complexes sont minoritaires et eux-mêmes ont des arrangements généralement assez ouverts.
Alors il faut préciser que ce qu'on entend en fond sonore, ce sont les choix de notre invité Aymeric Leroy, ce sont des morceaux un petit peu atmosphériques qui évoquent la période d'avant le morceau qu'on écoute, puisqu'on va écouter évidemment quelques morceaux du groupe qui sont en général des grands classiques très connus. Alors là c'est un extrait du premier album, alors on a été obligé de le raccourcir, hein, au secours, ne portez pas plainte les puristes, parce que sinon on n'a pas le temps. Un morceau d'autant plus classique qu'il met en place certaines choses qui sont extrêmement révolutionnaires pour l'époque et qui en plus est un morceau qui est à la fois violent et marquant pour tous les groupes qui vont suivre.
Ouais, donc 21st Century Kids on Man, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Donc c'est le morceau d'ouverture du premier album. C'est un morceau qui finalement est pas forcément très représentatif de la totalité de l'album, qui a aussi une dimension symphonique avec le mélotron et une dimension plus mélodique et un peu classisante. 21st Century Kids on Man, ça représente plus la facette jazz teintée de hard rock. Et c'est cette combinaison de symphonisme et de rock assez violent et jazzy qui fonde vraiment l'originalité de King Crimson à ses débuts et aussi la virtuosité et la rigueur instrumentale.
On se retrouve dans 5 minutes, donc toujours avec Aymeric Leroy qui vient de signer ce livre sur King Crimson. Judaïque FM 94.8, toujours avec Aymeric Leroy pour son livre King Crimson. Il n'y a pas de sous-titre, hein. En général, voilà, c'est brut des rock progressif, King Crimson. Ouais. T'as pas eu envie de dire deux, trois mots, justement, comme ça se fait dans ces biographies?
C'est un peu compliqué parce que, en fait, au départ, pour le rock progressif, je voulais trouver un titre plus original et c'est mon éditeur qui m'a dit vaut mieux qu'on soit très, très proche du contenu parce qu'il avait fait un livre sur le krautrock allemand qui s'appelait Au-delà du rock et ça avait généré une certaine confusion parce que les gens ne savaient pas immédiatement que c'était sur le rock allemand à l'exclusion de toute autre chose. Donc on est resté sur cette idée de faire des titres qui soient extrêmement directs. Sur le Pink Floyd, il se trouve que j'avais mis un sous-titre parce que je croyais que c'était obligatoire d'en mettre un. Et alors sur celui-là, j'ai même pas essayé. Le problème, c'est que je voulais l'appeler un moment déconstruction d'un mythe. Là, et finalement, j'ai utilisé ce titre pour l'avant-propos et c'était un peu proche du titre du bouquin sur Magma qui s'appelle qui a à voir avec le mythe aussi, donc bouquin sur Magma sorti chez le même éditeur, donc bon, j'ai zappé la question en gardant le titre le plus simple qui soit.
Tout à l'heure, on a vu que ce groupe avait plusieurs périodes, mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que la musique changeait à chaque fois et que quand on écoute des albums de ces différentes périodes, on a franchement l'impression d'avoir quatre groupes différents.
Oui, c'est clair. Bon, il y a le passage du temps qui joue aussi dans le sens où King Crimson souvent s'est absenté pendant longtemps. Donc entre 74 et 81, il n'y avait plus de groupe. Entre 84 et 94 non plus. Donc évidemment, au bout de 7 ans, au bout de 10 ans d'absence, on a forcément un son très changé. Mais c'est vrai que c'était déjà le cas au début. Alors ça tient au changement dans l'équipe, puisque sur les premiers albums, ça changeait par exemple de chanteur quasiment à chaque disque pendant un moment. Il y a aussi la rupture de 72 où le saxophone disparaît et le violon arrive. Donc là, c'est un gros changement de son aussi. Dans les années 80, il y a les deux guitares, disparition totale des instruments acoustiques comme justement le violon ou le saxophone. Dans les années 90, il y a le double trio avec deux batteurs, deux bassistes, deux guitaristes, beaucoup d'électronique. Donc il y a des changements qui tiennent simplement à la physionomie du groupe.
Et est-ce qu'on peut dire que ces changements sont dus en partie au désir de Robert Fripp, qui sont très changeants, mais aussi à la volonté toujours d'innover, de faire quelque chose qui permette de repousser les limites, notamment de son propre instrument, la guitare?
Il peut y avoir ça aussi. Alors il y a les limites techniques. Bon, je pense que Fripp a dépassé ce stade-là quand il a fait Fracture justement en 74, qui était vraiment le morceau le plus compliqué qui soit. Bon, il en a fait d'autres dans la même veine plus tard, mais en tout cas le côté défi technique et complexité a été un peu évacué à ce moment-là. Justement dans les années 80, il a expérimenté autre chose qui était plus proche du minimalisme, de la répétitivité, du changement dans la continuité, ces choses-là, avec une recherche technologique avec beaucoup d'instruments nouveaux pour l'époque, et utiliser l'électronique, le système MIDI, ces choses-là. Oui, la volonté de changement était présente chez lui, et il y a aussi une volonté d'être vraiment en phase avec, je dirais, la scène rock et l'époque pendant laquelle il opère. À la fin des années 70, quand Crimson était séparé, Fripp a vécu pendant plusieurs années à New York. Là, il a été en contact avec la scène punk New Wave, ce qui l'a beaucoup influencé plus tard quand le groupe renaît de ses cendres en 81. Là, il y a un groupe qui est devenu moitié américain, moitié anglais et qui est fortement influencé par la scène new-yorkaise, à la fois new wave et minimaliste, répétitive, des compositeurs comme Steve Reich par exemple, et aussi la world music. Donc des nouvelles influences pour l'époque.
Et donc, c'est aussi le signe que... Là, par contre, on rentre dans une des définitions du prog au sens pur, c'est l'influence des musiques dites savantes, le jazz et la musique classique. Est-ce que justement, dans les différentes périodes, il n'y a pas eu un abandon, par exemple, de la couleur jazz à un moment?
Si, ouais, justement, en 72-73, il y a une volonté vraiment que Fripp a expliqué très précisément, qui était une volonté de se débarrasser des influences américaines, le côté blues et jazz, pour explorer quelque chose qui soit une direction, un héritage purement européen, qui soit plus influencé par Bartok ou Stravinsky, tout en conservant la base rock. Pour lui, c'était la manière vraiment de se distinguer de façon originale de tout ce qui se faisait à l'époque, c'était vraiment de laisser tomber toute la dimension de jazz.
Et de même, quand la troisième, entre guillemets, mouture arrive en 81 avec l'album Discipline, on a l'impression que le groupe est américain. Il y a la voix, le style, une espèce de mélange de froideur et de fun, même des côtés un petit peu aussi presque un tout petit peu funk. Enfin, ça fait vraiment tourner le dos au côté très britannique qu'avait le rock progressif à la base.
Alors ça tourne le dos dans le sens où peut-être une dimension lyrique, mélodique, qui était incarnée notamment par la voix de John Wetton, ben on sait dans la place un guitariste chanteur vraiment typiquement américain comme Adrian Belew. C'est vrai qu'on peut dire que la tête de gondole du groupe, entre guillemets, était devenue très américaine. Ceci dit, moi je serais plus mesuré dans le sens où je pense que c'est moitié-moitié, c'est-à-dire que cette surface, qui est effectivement peut-être celle qu'on perçoit le plus rapidement, est très américanisée. Derrière, il y a quand même tous ces jeux rythmiques, polyrythmiques, et ces enchevêtrements complexes de guitare, d'arpèges, qui restent quand même assez anglais dans mon sens. Mais c'est vrai que bon, par la voix du chanteur et par certains rythmes, on s'est approché très largement des États-Unis.
Il y a une question qui me paraît importante pour un entre guillemets une percée, puisque c'est ce premier livre paraissant en France, c'est quelles ont été tes sources, parce que j'imagine qu'il n'y a pas seulement l'ouvrage de référence dont tu parlais qui est paru en anglais, parce qu'il y a des choses extrêmement précises, notamment des analyses musicologiques régulièrement par rapport aux albums. Alors je crois que, si je me souviens bien, tu n'es pas musicien toi-même.
Donc, un petit peu.
Un petit peu. Comment as-tu fait pour aller si loin? Parce que tu évoques souvent, par exemple, les signatures rythmiques, qui sont quelque chose d'extrêmement important dans King Crimson, sortir de la musique à quatre temps, et aussi les gammes, les couleurs, les harmonies, etc.
Bah, ce sont des informations que j'ai pu glaner ici et là. C'est vrai que Robert Fripp a quand même écrit beaucoup de choses lui-même. Alors parfois, il faut chercher un peu, parce qu'il parle beaucoup de, sur son blog notamment, il parle beaucoup de toutes ces histoires de conflits, de procès avec ses anciennes maisons de disques, mais des fois il y a quand même quelques petites pépites au milieu de ça que j'ai largement citées dans le livre, où il parle vraiment plus ce qu'on aimerait qu'il fasse plus souvent de la musique, de ses sources d'inspiration. Tout ce que j'ai dit par exemple sur Bartók et Stravinsky, c'est des choses qu'il a écrites à propos de l'Arcson Dynaspeak sur son blog. Donc il y a pas mal de choses comme ça. Toutes les compilations, documents d'archives et ce genre de choses qui sont sorties au fil des années sont toujours accompagnées de copieux livrets où Fripp écrit des textes aussi assez largement théoriques. Donc il y a pas mal d'informations à glaner ici et là qui ont pas mal complété ce que j'ai pu effectivement prendre dans le bouquin de Sid Smith qui a pas mal déblayé sur la biographie, le bouquin d'Eric Tam aussi sur Robert Fripp qui était paru il y a plus longtemps. Beaucoup d'écoute personnelle et mon oreille, alors maintenant je sais à peu près compter les rythmes impairs. Pour les harmonies c'est un peu plus compliqué, j'en connais certaines, mais j'ai fait avec ce que j'avais, sachant que mon lectorat non plus n'est pas plus spécialiste que moi, il l'est peut-être même un peu moins en général, donc j'ai pas non plus, je suis pas parti dans quelque chose de vraiment extrêmement théorique, quoi.
Il y a d'ailleurs un livre que t'as peut-être déjà lu, hein, c'est une thèse de musicologie sur le progressif faite par un Belge, où là vraiment on a droit à des analyses précisément avec partition. Hein.
Oui, c'est le livre de Christophe Pirenne. Moi j'avais été en contact un peu avec lui sur la scène de Canterbury concernant cet ouvrage. Pour l'analyse musicologique, parfois il prend des exemples à mon goût, pas forcément les plus avancés au niveau rock progressif. Par exemple, il prend des choses comme Whiter Shade of Pale de Procol Harum, ouais, ou Bourré de Jeff Rotel. Bon, j'aurais préféré qu'il parte dans des Thick as a Brick ou dans des choses comme ça, mais bon. Voilà, c'est plus une approche effectivement de musicologue.
Alors, fin de la parenthèse, mais il y a une chose qui m'a frappé, parce que moi, j'ai tout lu, y compris du début à la fin, et tu évoques des rencontres que tu as pu faire avec des musiciens qui ont joué à King Crimson, mais Robert Fripp, tu ne l'as pas rencontré. Comment
ça
se fait ?
Non, parce que, alors en fait, moi, j'ai commencé dans le fanzina rock progressif vers 93-94, et je conserve fièrement une lettre de discipline qui m'apprend que Robert Fripp ne donne plus d'interview. Alors, c'était pas tout à fait vrai à l'époque, mais en tout cas ça l'est depuis une dizaine d'années, où vraiment c'est devenu quasiment impossible d'interviewer Robert Fripp, donc j'ai même pas vraiment essayé. Je sais que Sid Smith, qui est en train de travailler à une réédition augmentée de son livre, a pu rencontrer longuement Robert Fripp récemment, mais bon, c'est un privilège qu'il a, j'imagine, en tant qu'ami et webmaster. Mon seul contact avec Fripp pour l'instant, ça a été de lui envoyer le livre, et dont il a fait brièvement mention sur son blog, et voilà, quoi.
Alors, quand on parle des sources, on est obligé de parler des sources musicales, puisque tu te sers énormément des versions live pour parler des versions studio et pour évoquer les tâtonnements, les expérimentations. Le fait, par exemple, c'est une des choses qu'on peut apprendre dans le livre, qu'à part quelques périodes, je crois, sur la fin, pratiquement tous les morceaux étaient d'abord testés sur scène et ensuite enregistrés. Et donc, tu as écouté combien d'heures de bandes live, notamment, parce que j'ai l'impression que tu as été beaucoup sur le site sur lequel on peut télécharger des concerts en écrivant ce livre.
Oui, alors ceci dit, heureusement, je n'ai pas commencé à écouter tous ces documents en commençant à travailler sur le livre l'été dernier. Donc je suis un client de longue date du GM Live, du Collectors Club de King Crimson. Donc j'ai complété mes connaissances, mais j'avais quand même découvert au fur et à mesure depuis 98. Donc j'ai eu une quinzaine d'années pour découvrir au fur et à mesure. C'est vrai que ces documents sont souvent intéressants. En dehors de quelques albums bien précis, bon, les albums comme Lizard, où il n'y avait pas vraiment de groupe de scène à l'époque, Red qui n'a pas été, enfin, à part le morceau Starless, plus tard Three of a Perfect Pair, enfin, quelques albums qui n'ont pas été testés sur scène, beaucoup, et heureusement on a les traces des premiers tâtonnements. Et c'est vrai que Fripp a souvent dit que c'était pour lui la meilleure moyen de peaufiner les morceaux, c'était de les travailler sur scène, et souvent les versions sont très différentes. Sur l'album Beat notamment, tous les morceaux ont été testés sous forme instrumentale avant, et c'est très intéressant à écouter, même si généralement les meilleures versions sont celles qui, les définitives qui sont sur les disques.
Alors on avance dans le temps avec nos extraits de la carrière de King Crimson. Donc là, sur ce plan-là, on est vraiment très chronologique. Cette fois-ci, c'est la deuxième période, souvent la préférée des fans, hein, j'ai l'impression. Celle avec John Wetton
et Bill Bruford, David Cross aussi au violon. Ouais, c'est la période, c'est une période un peu de stabilité, un côté un peu super groupe aussi avec ces deux musiciens qui, alors dans le cas de Bill Bruford, avait déjà une notoriété avec Yes auparavant. Pour Wetton, c'est venu surtout après. C'est un peu le super groupe King Crimson, et dans son incarnation anglaise. Alors certains auditeurs ont été un petit peu déçus par le virage américain des années 80 et restent attachés sentimentalement à ce King Crimson anglais.
Et donc c'est un extrait de The Great Deceiver de
Starless and Bible Black
qu'on écoute tout de suite donc dans Rockoscopy sur Judaic FM.
Smells of sweet sedition.
Un des plus grands groupes de rock progressif dans l'histoire, King Crimson, c'est au programme de notre rockoscopie de ce soir avec l'auteur du livre, du premier livre en français, King Crimson, justement aux éditions Le Mot et le Reste, Aymeric Leroy. Alors, puisque nos auditeurs mystères n'ont pas appelé pour l'instant, mais on va peut-être faire gagner quelques petites places hein, pour Before the Wall, spectacle de reprise très très fidèle de Pink Floyd au 20e théâtre. Alors vous pouvez appeler, tenter votre chance au 01 43 37 27 28. On va poser la même question qu'il y a 15 jours. Elle est très très dure cette question. Qu'est-ce qu'elle est dure? En quelle année est paru l'album The Wall de Pink Floyd? Voilà. Et vous pourrez gagner des invitations. Antoine de l'autre côté de la régie, il donne ligne de la tête, il dit c'est facile et il est prêt. Alors on parle de King Crimson là pour l'instant quand même. On évoquait donc ces périodes différentes. Et moi, je me suis interrogé sur la personnalité de Robert Fripp. C'est pourtant pas un dictateur, mais il est arrivé un moment où il décidait de tout. Est-ce que tu pourrais considérer que c'est l'égal d'un Ian Anderson, de Jethro Tull, qui était l'homme groupe à lui tout seul?
Il y a des points communs dans le sens où effectivement, le groupe s'est renouvelé autour de lui. Ceci dit, Robert Fripp a été à un moment donné le compositeur unique, mais un peu par défaut pendant la période où il menait le groupe avec Peter Sinfield. On peut plus dire ça par contre des line-up suivants à partir de 72, vraiment c'est très pluraliste. John Wetton, David Cross, plus tard Adrian Belew écrivent beaucoup de morceaux. Fripp lui-même s'est décrit plus que comme un leader, comme un contrôle qualité, hein, quelqu'un qui soit capable de déterminer si des idées musicales ont leur place dans King Crimson. Donc c'est plutôt comme ça qu'il vit son rôle. Peut-être, enfin moi, dans mon appréciation personnelle, je pense qu'il se fourvoie un petit peu parce que malgré tout, il fait régner dans le groupe une... c'est lui qui décide vraiment de la direction musicale, donc quelque part il y a un leadership de fait qui est vraiment très fort. Je pense que c'est indéniable et voilà, je sais pas trop comment.
Est-ce qu'on peut estimer que sa personnalité a empêché des reformations ou en tout cas des vies plus longues pour les différentes incarnations de King Crimson, parce que il a dit quand même à un moment au sommet de la gloire, au moment où l'album Red, d'ailleurs je crois qu'il est sorti pratiquement au moment où le groupe était déjà séparé, ouais. Il faut arrêter avec ça, il faut changer, il faut révolutionner un peu à la fois économiquement et musicalement, alors qu'il avait tout à gagner et tout le monde attendait une suite.
Oui, alors on peut mettre à son crédit une espèce de pureté, d'incorruptibilité. En tout cas, c'est vrai qu'à chaque fois King Crimson s'est dissous, plus tard en 84 également, bon, depuis 2003, hormis la petite tournée de 2008, bon, c'est également lui qui décide ou pas que le groupe doit se reformer. Et souvent, les autres musiciens de King Crimson ne sont pas vraiment... même s'ils comprennent sa décision a posteriori, elle n'était pas vraiment pour arrêter. John Wetton, Bill Bruford était très pris de court en 74 et de même en 84, Fripp était le seul à vraiment vouloir arrêter. Donc il y a...
Alors, dans ton livre, il y a quand même des moments assez rigolos. Notamment, tu parles d'une chanson qui casse un peu le mythe du groupe Intello, qui date des débuts du groupe. C'est la chanson Ladies of the Road. Alors, tu fais une petite analyse du texte, puisque, évidemment, le prog a souvent une réputation... notamment au niveau des textes et de la musique, d'être réservé une élite, de demander presque une initiation pour bien comprendre, pourquoi pas des partitions aussi pour bien suivre. Et puis là, apparemment, il s'est amusé à évoquer les groupies. Et est-ce que justement cette chanson, c'était pour casser ça parce qu'il sentait que ce serait un problème? Alors je parle toujours de Fripp comme si c'était le seul chef.
Oui, alors que là, justement, c'est pas vraiment Fripp, c'est plutôt Peter Sinfield. Est-ce que Peter Sinfield a parlé de l'album Islands, sur lequel se trouve ce morceau, comme étant une réaction à l'intérêt l'intellectualisme ou l'intellectualisation, je ne sais plus, de Lizard, l'album précédent, qui effectivement correspond beaucoup plus au cliché, tout en étant très bon à mon sens, mais en tout cas à l'idée commune du rock progressif dans les ambitions littéraires et musicales. Island, ça marque une rupture avec ça à plusieurs points de vue, toute la dimension allégorique, politico-sociologique disparaît d'un seul coup et on se retrouve avec des morceaux qui soit évoquent des lieux paradisiaques comme les Baléares, soit effectivement ce morceau qui parle plus des plaisirs de la vie en tournée. thème qu'il avait déjà abordé dans Cadence and Cascade, qu'on a entendu en fond tout à l'heure, sur l'album In the Wake of Poseidon, mais là c'était sous la forme d'une espèce d'allégorie qui pouvait laisser penser à quelque chose de mythologique. Bon, là c'est beaucoup plus direct et assez salace, on peut dire, avec quelques métaphores plutôt bien senti.
Alors, c'est aussi une façon de présenter ce guitariste très novateur, Robert Fripp, comme étant quelqu'un qui finalement, sur le plan de la, comment dire, de la virtuosité, laisse facilement sa place, puisqu'il a pratiquement jamais écrit de texte, si je comprends bien, et il avait toujours des virtuoses avec lui. Bill Bruford à la batterie, c'est un monument absolu pour n'importe quel batteur. Tu dis dans le livre que tu estimes que John Wetton, c'est le meilleur bassiste qu'il ait eu, que Greg Lake, c'était le meilleur chanteur qu'il ait eu. Bref, tous ces gens qui pouvaient l'éclipser un peu.
Ouais, John Wetton, je dis ça, le meilleur bassiste qu'ils aient eu jusque-là, parce que bon, évidemment, Tony Levin et surtout même Tregan sont des virtuoses d'un autre calibre. Fripp lui-même a une approche assez particulière par rapport à la virtuosité. C'est quelqu'un qui considère n'avoir aucun talent pour la musique au départ et qui semble avoir appris à jouer de la guitare vraiment contre à son corps défendant presque, en devant lutter contre très peu de prédispositions techniques. Et du coup, il a compensé ça en bossant comme un malade, on peut dire, et en composant des morceaux qui étaient un défi pour sa propre virtuosité, bon, qui à l'arrivée sont extrêmement impressionnants pour beaucoup de guitaristes et bon, le place aisément au niveau de certains des musiciens que tu citais, comme Bill Bruford. En termes techniques, c'est vrai que le King Crimson des années 80 avec Tony Levin et Adrian Belew était d'une technicité assez sans équivalent pour l'époque.
Comme quoi le travail paie. Alors justement, cette période, on va y arriver avec un morceau qui est très emblématique, à mon avis, du charme mélodique qui pouvait être celui de la version King Crimson avec Adrian Belew. Un joli refrain et puis en même temps un peu de complexité derrière, c'est le morceau Frame by Frame. Tu peux en dire quelques mots?
Bah, y a, effectivement, ce qui est intéressant dans ce morceau, c'est l'interaction entre les deux guitares, la façon dont elles se décalent avec des jeux polyrythmiques entre les deux guitares, et puis le contraste très typique entre, d'un côté, Robert Fripp et ses arpèges ultra rapides, et puis Adrian Belew qui a un jeu beaucoup plus primitif, brutal, rock.
Tout de suite, Frame by Frame, King Crimson. We'll be right back. fameuse guitare frippienne, donc King Crimson avec Frame by Frame. C'est, je ne me trompe pas, un extrait de Discipline.
Tout à fait, 81.
L'album 1981. On a l'impression, on est toujours avec Aymeric Leroy à propos de son livre, paru aux éditions Le Mot et le Reste, qu'à chaque période, Robert Fripp, le guitariste leader, trouvait de nouveaux sons de guitare et il trouvait de nouveaux noms pour baptiser ses innovations. Alors, il y a eu d'abord. Alors je sais pas comment il appelait cela dans les années 80, mais après il y a eu les Frippertronics et puis après il y a eu les Soundscapes.
Alors c'était avant les Frippertronics en fait. Les Frippertronics, ça découle de son travail avec Brian Eno, donc qui a commencé en 72-73. Et Brian Eno au départ s'occupait de manipuler les magnéto Revox en boucle. Qui faisait que Fripp pouvait empiler les guitares successivement. Après, il a appris à le faire tout seul, donc ça, c'est devenu les Frippertronics. Les Soundscapes, c'est la version années 90, années 2000, qui est gérée électroniquement, évidemment, sans s'embêter par tous ces empilements de pistes sur des Revox mis les uns derrière les autres. Alors pour la guitare, oui, il y a eu les guitares synthé aussi dans les années 80. Enfin, tout ça a suivi aussi la technologie au fil des décennies.
Alors, même si le livre évoque les albums chronologiquement de King Crimson, ils sont pas si nombreux d'ailleurs, à chaque fois donc, tu intercales un tout petit chapitre sur les lives qui correspondent à cette période et qu'on peut trouver en disque, mais il y a évidemment les moments de longue rupture, en particulier après 74 et après 84. Et là, tu évoques les innombrables collaborations de Robert Fripp. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de projets. Donc déjà, qu'on disait tout à l'heure, il y a beaucoup à faire si on veut écouter les lives de King Crimson, mais il y a encore plus à faire si on veut écouter les autres albums. Est-ce que, sur tous ces travaux, on peut estimer qu'ils ont influencé notablement les albums de King Crimson qui ont pu suivre?
Ça, c'est clair, notamment dans le cas des Talking Heads. Ce que Fripp a joué sur un de leurs albums à la fin des années 70. Plus tard, David Byrne est venu chanter sur son album Under Heavy Manners. Et évidemment, Adrian Belew, lui, à l'époque, était aussi associé aux Talking Heads. Et donc, cette influence-là s'est manifestée dans son travail plus tard. Donc ça, c'est vraiment une influence qui est clairement passée d'une époque à l'autre. Plus tard, je pense que c'était moins vrai. On peut peut-être parler de la collaboration avec David Sylvian en 92-93 qui a précédé la reformation de King Crimson et qui a influencé King Crimson, ne serait-ce que par le fait que c'est là que Trey Gunn et Pat Mastelotto se sont fait pour la première fois entendre dans le contexte de King Crimson, et après Fripp les a intégrés à ce qu'il a appelé le double trio avec les autres musiciens qui eux étaient reconduits de la formule précédente.
Ah, c'est étonnant ce qu'on entend là en fond, hein. C'est vraiment du King Crimson quand même, et oui, il faut remettre le casque parce qu'on a l'impression d'avoir presque de l'électro.
Ouais.
Et tu peux nous parler de ça?
Alors ça, c'est Dangerous Curves, c'est l'un des morceaux de Power to Believe, le dernier album en date, et donc il restera peut-être le dernier, il date de 2003, et donc toute la deuxième moitié de l'album est sans être de l'improvisation, disons que ça revenait à une approche plus spontanée, enfin avec des trames plus évolutives et simples. Et là, en l'occurrence, ça rappelle à la fois Talking Drum ou Devil's Triangle, des anciens albums de King Crimson, mais bien sûr avec des textures sonores électroniques beaucoup plus au goût du jour.
Alors, il faut penser aux jeunes qui nous écoutent et qui découvrent ce groupe, qui connaissent peut-être que quelques images. Évidemment, c'est toujours très difficile, mais si tu pouvais donner 2-3 albums pour entrer dans King Crimson, j'imagine que tu vas citer le premier.
Oui, je vais être extrêmement banal, mais il faut citer le premier, il faut citer Red en 74 et Discipline en 80. Bon, c'est vraiment les grands jalons, parce qu'après le King Crimson des années 90, par exemple, on peut le voir comme une synthèse des deux décennies précédentes. Donc il y a des nouveautés en termes de texture sonore, mais les éléments, ne serait-ce que par la présence de musiciens qui faisaient partie du groupe de longue date, comme Adrian Belew ou Bill Bruford, bon, il y avait une constance qui fait que c'est un groupe qui avait une histoire et sa musique était en grande partie déterminée par son passé.
Le dernier album de Robert Fripp qui est paru, c'est un projet avec des noms de musiciens. Il dit que c'est un projet King Crimson. Est-ce que pour toi le groupe est définitivement éteint? Où est-ce qu'on peut encore attendre de la musique crimsonienne?
Moi, je ne désespérerai pas complètement. Il faut savoir que trois des membres de King Crimson sont en tournée en ce moment sous le nom de Crimson Project. Donc Adrian Belew, Tony Levin, Pat Mastelotto. Ils font la première partie de Dream Theater sur leur tournée cet été aux États-Unis. Robert Fripp lui-même est en pause en tant que musicien. Depuis fin 2010, il ne se produit plus en public et il travaille apparemment sur des livres, un ou deux livres consacrés à sa carrière et à son expérience dans l'industrie musicale. Je pense que quand il aura fini ces projets-là, il n'est pas exclu qu'il revienne à faire de la musique, sachant que le projet que tu viens d'évoquer, la Scarcity of Miracles avec Mel Collins et Jaco Jackzik, est un disque dont qui a un pedigree crimsonien évident, parce qu'il y a également Tony Levin et Gavin Harrison à la batterie. Mais musicalement, dans sa genèse, c'est quand même pas vraiment King Crimson, c'est un produit un petit peu virtuel, qui pour moi ne satisfait pas complètement à ce qu'on attendrait de King Crimson.
Est-ce que tu as un album un petit peu méconnu à mettre en avant pour ceux qui seraient un peu plus aventureux de King Crimson?
Moi, celui que j'essaie de réhabiliter, qui est mon album préféré peut-être, c'est Starless and Bible Black, justement, dont on a...
Parce que ça se sent
comme Fracture. Voilà, j'aime beaucoup cet album. Et puis bon, peut-être Lizard comme album, alors qui est moins méconnu maintenant qu'il a longtemps été, mais qui est un album assez extraordinaire par son originalité et les ambitions un peu démesurées qu'il affiche.
Alors deux, trois petites choses très rapidement. D'abord, on parle du film Emmanuel dans le livre. En deux mots, une histoire de plagiat. Donc je vous conseille de le lire. Et ça, j'avais déjà noté le côté très prog, évidemment par hasard, je suis tombé sur ce film à la télé, mais très prog d'une scène assez fameuse du film. Je me dis, tiens, c'est vrai, ça ressemble à des trucs. En plus, c'est à moitié impair ce truc. Et donc là, tu mets en lumière exactement cet épisode. C'est assez rigolo. Et puis, quels sont les prochains bouquins? Puisque maintenant, régulièrement, tu sors des livres.
Alors le seul vraiment sur lequel je me concentre en ce moment, c'est un bouquin qui est prévu de longue date sur la scène de Canterbury, sur lequel je travaille depuis très longtemps, donc Soft Machine, Caravan, tous ces groupes. Ça fait plus d'une douzaine d'années que j'accumule les interviews, les recherches et tout ça. Donc je me focalise là-dessus pour l'instant et donc j'attendrai de l'avoir fini pour envisager d'autres projets.
Alors ça c'est facile pour trouver, tu peux donner le nom de ton site.
Alors, sur la scène de Canterbury?
Oui.
Alors, calix.club.fr pour la scène de Canterbury, autrement Big Bang Magazine, bigbangmag.com pour tout ce qui est rock progressif.
On rappelle, t'avais terminé parce
oui,
que
oui.
Là,
je suis pas dansé.
Aymeric Leroy, King Crimson, dans la collection Forme aux éditions Le Mot et le Reste. Il me reste quelques instants pour remercier Antoine à la technique et pour dire que dans 15 jours, c'est le festival Crescendo à Saint-Palais-sur-Mer dont on va parler, un festival de prog absolument incroyable. Voilà, je termine rapidement. Schmock on the Water samedi prochain à minuit. Ce sera des nouveautés. Merci Antoine, salut. On se retrouve donc dans 8 jours ou dans 15 et tout de suite, livre au Café des Psaumes.